Durieux avait depuis longtemps déposé les malles en bas. Et elle n'avait ni l'idée ni la force de se débarbouiller, de se changer, anéantie à présent sur cette chaise où elle était tombée. Un regret unique, un remords immense l'emplissait. Pourquoi avait-elle obéi? Pourquoi s'était-elle résignée à partir? Si elle était restée, elle avait la conviction ardente qu'il ne serait pas mort. Elle l'aurait tant aimé, tant caressé, qu'elle l'aurait guéri. Chaque soir, elle l'aurait pris entre ses bras pour l'endormir. Elle l'aurait réchauffé de toute sa jeunesse. Elle lui aurait soufflé de sa vie dans ses baisers. Quand on ne voulait pas que la mort vous prît un être cher, on restait pour donner de son sang. On la mettait en fuite. C'était sa faute si elle l'avait perdue, si elle ne pouvait plus, d'une étreinte, l'éveiller de l'éternel sommeil. Et elle se trouvait imbécile de n'avoir pas compris, lâche de ne s'être pas dévouée, coupable et punie à jamais de s'en être allée, quand le simple bon sens, à défaut du cœur, devait la clouer là, dans sa tâche de sujette soumise et tendre, veillant sur son roi. Le silence devenait tel, si absolu, si large, que Clotilde détacha un instant les yeux du visage de Pascal pour regarder dans la chambre. Elle n'y vit que des ombres vagues. La lampe éclairait de biais la glace de la grande psyché, pareille à une plaque d'argent mat, et les deux cierges mettaient seulement, sous le haut plafond, deux taches fauves. À ce moment, la pensée lui revint des lettres qu'il lui écrivait, si courtes, si froides. Et elle comprenait sa torture à étouffer son amour. Quelle force il lui avait fallu dans l'accomplissement du projet de bonheur sublime et désastreux qu'il faisait pour elle. Il s'entêtait à disparaître, à la sauver de sa vieillesse et de sa pauvreté. Il la rêvait riche, libre de jouir de ses 26 ans loin de lui. C'était l'oubli total de soi, l'anéantissement dans l'amour d'une autre. Et elle en éprouvait une gratitude, une douceur profonde, mêlées à une sorte d'amertume irritée contre le destin mauvais. Puis, tout d'un coup, les années heureuses s'évoquèrent, sa jeunesse, son adolescence près de lui, si bon, si gai. Comme il l'avait conquise d'une lente passion, comme elle s'était sentie sienne après les révoltes qui les avaient un instant séparées, et dans quel emportement de joie elle s'était donnée à lui, pour être davantage et tout à lui, puisqu'il la désirait. Cette chambre où il se refroidissait à cette heure, elle la retrouvait tiède encore et frissonnante de leur nuit de tendresse. 7 heures sonnèrent à la pendule et Clotilde tressaillit à ce tintement léger dans le grand silence. Qui donc avait parlé? Elle se rappela. Elle regarda la pendule dont le timbre avait sonné tant d'heures de joie. Cette pendule antique avait une voix chevrotante d'amis très vieilles qui les amusaient dans l'obscurité quand ils veillaient aux bras l'un de l'autre. Et de tous les meubles, à présent, lui venaient des souvenirs. Leurs deux images lui semblèrent renaître du fond argenté et pâle de la grande psyché. Elle s'avançait, indécise, presque confondue, avec un flottant sourire, comme au jour ravi où il la menait là pour la parer de quelques bijoux, un cadeau qu'il cachait depuis le matin dans sa folie du don. C'était aussi la table où brûlaient les deux cierges, la petite table sur laquelle ils avaient fait leur dîner de misère, le soir qu'il manquait de pain et qu'elle lui avait servi un festin royal. Que de miettes de leur amour elle retrouverait dans la commode à marbre blanc, cerclée d'une galerie. Quel bon rire ils avaient eu sur la chaise longue aux pieds raidis, quand elle y mettait ses bas et qu'il la taquinait. Et même de la tenture de l'ancienne indienne rouge décolorée, devenue couleur d'aurore, un chuchotement lui arrivait. Tout ce qu'il s'était dit de frais et de tendre, des enfantillages infinis de leur passion. Et jusqu'à l'odeur de sa chevelure, à elle, une odeur de violette qu'il adorait. Alors, comme la vibration des 7 coups de la pendule avait cessé, si longue en son cœur, elle ramena les yeux sur le visage immobile de Pascal, et de nouveau, elle s'anéantit. Ce fut dans cette prostration croissante que Clotilde, quelques minutes plus tard, entendit un bruit soudain de sanglots. On était entré en coup de vent. Elle reconnut sa grand-mère, Félicité. Mais elle ne bougea pas. Elle ne parla pas, tellement elle était déjà engourdie de douleur. Martine, devançant l'ordre qu'on lui avait sûrement donné, venait de courir chez la vieille Madame Rougon pour lui apprendre l'affreuse nouvelle. Et celle-ci, stupéfaite d'abord d'une catastrophe si prompte, bouleversée ensuite, accourait, débordante d'un chagrin bruyant. Elle sanglota devant son fils, elle embrassa Clotilde, qui lui rendit son baiser, comme dans un rêve. Puis, à partir de cet instant, celle-ci, sans sortir de l'accablement où elle s'isolait, sentit bien qu'elle n'était plus seule, au continuel remue-ménage étouffé dont les petits bruits traversaient la chambre. C'était Félicité qui pleurait, qui entrait, qui sortait sur la pointe des pieds, qui mettait de l'ordre, furetait, chuchotait, tombait sur une chaise pour se relever aussitôt. Et vers 9 heures, elle voulut absolument décider sa petite fille à manger quelque chose. 2 fois déjà, elle l'avait sermonnée tout bas. Elle revint lui dire à l'oreille « Clotilde, ma chérie, je t'assure que tu as tort. Il faut prendre des forces. Jamais tu n'iras jusqu'au bout. » Mais d'un signe de tête, la jeune femme s'obstinait à refuser. « Voyons, tu as dû déjeuner à Marseille, au buffet, n'est-ce pas? Et tu n'as rien pris depuis ce moment. Est-ce raisonnable? Je n'entends pas que tu tombes malade, toi aussi. Martine a du bouillon. Je lui ai dit de faire un potage léger et d'ajouter un poulet. » « Descends manger un morceau, rien qu'un morceau, pendant que je vais rester là. » Du même signe souffrant, Clotilde refusait toujours. Elle finit par bégayer. « Laisse-moi, grand-mère, je t'en supplie, je ne pourrai pas, ça m'étoufferait. » Et elle ne parla plus. Pourtant, elle ne dormait pas. Elle avait les yeux grands ouverts, obstinément fixée sur le visage de Pascal. Durant des heures,